partager pendant quelques minutes la parole de Dieu ce matin, et puis on continuera encore dans un bon petit moment de louange, d'adoration. Je voudrais vous inviter à faire cette lecture dans le psaume 73 et à partir du verset 1er. Le psaume 73, verset 1er, nous parle d'un homme extraordinaire, c'est Asaph. Asaph était vraiment un homme qui écrivait des psaumes comme David, un homme de Dieu qui était marqué de l'onction divine. Et dans ce psaume 73, ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est vraiment quelque chose qui sort de son cœur. Il dit ceci, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Asaph va nous partager une tranche de sa vie intime, là. Asaph va nous partager quelque chose de très personnel. Il ouvre son cœur. Et malheureusement, parfois, on n'ose pas ouvrir notre cœur, même pas à Dieu. Mais là, Asaph, lui, est quelqu'un qui, à ce moment de sa vie, alors qu'il est en train de passer une turbulence, il est en train d'exprimer sur papier ce qu'il est en train de vivre. Et je bénis Dieu qu'il ait marqué ça sur papier parce qu'aujourd'hui, nous l'avons. Nous avons un texte qui a forcément touché, bouleversé, remué, interpellé des milliers de chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Le message, je l'ai intitulé « Crise de foi », F-O-I, comprenez bien. Parce que je crois que Asaph a passé, à ce moment-là, une crise de foi. Asaph n'est pas le seul à avoir eu une crise de foi. Je dirais que la crise de foi est inévitable. Et je dirais même qu'elle n'est jamais le produit du hasard. À un moment donné de notre vie, nous allons nous retrouver face à des crises de foi, face à des situations difficiles, à des turbulences. Et ces différentes circonstances qui vont nous amener à nous retrouver devant des cas, devant des moments difficiles. Et attention, ne confondons pas crise et épreuve, parce que ce sont deux choses différentes. Nous retrouvons dans la parole de Dieu un homme qui avait une crise mais qui n'avait pas d'épreuve, c'est Jonas. La parole de Dieu nous montre que Jonas, sous le ricin, a demandé à Dieu de le reprendre. Et il n'avait pas d'épreuve particulière, c'était juste qu'il ne voulait pas aller évangéliser Ninive. Il n'avait pas de moment difficile, il ne se retrouvait pas face à une situation compliquée, il a juste fait une crise de foi. À ce moment-là, il ne voulait pas obéir à Dieu. Et tellement déconfit dans son cœur que sous le ricin, il a demandé à Dieu de le reprendre. Et puis vous avez des gens qui auront des épreuves sans la crise. Abraham était un homme qui avait passé des moments d'épreuve sans forcément passer par la crise. Et on a un exemple d'Abraham quand il a offert son fils, quand Dieu lui a dit, voilà, tu vas monter sur la montagne du Morija et là tu vas offrir ton fils, ton seul, ton unique. Et là, ça a été une véritable épreuve. Mais ce n'était pas quelqu'un qui était en crise de foi. C'est quelqu'un qui était en train de passer un moment difficile de sa vie, mais c'était quelqu'un où spirituellement, il avait les yeux fixés sur le Seigneur, il était ancré, il n'y avait pas de soucis dans son cœur, il n'y avait pas de problème. Et la preuve, c'est que la Bible nous dit qu'il a pu partager avec son fils en disant « T'inquiète pas, Dieu pourvoira ». Mais il était dans l'épreuve. Et puis vous avez des personnes qui seront non seulement dans l'épreuve, mais aussi dans la crise de foi. Et là, j'ai un personnage, mais on pourrait en citer d'autres, Élie. Suite aux menaces de Jézabel. Élie, qui avait combattu les 400 prophètes de Baal, se retrouve à un moment donné menacé par une femme. Il a été complètement retourné, renversé par cette menace de mort parce qu'il avait peur de mourir. Il quitte, il s'enfuit le pays, puis il demande à Dieu de le reprendre. Et à un moment donné, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et là, il passe une véritable crise, tout en étant dans l'épreuve. Mais quand on parle d'Asaph, Asaph, lui, il a passé uniquement une crise de foi à ce moment-là, dans ce psaume. Il dit ceci au verset 1er, quelque chose de très intéressant. Il dit « Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur ». Là, cette phrase, elle claque comme une affirmation. « Oui, Dieu est bon ». Là, il est sûr. Il est sûr et puis il précise pourquoi Dieu est bon. Il précise parce qu'il dit ceci « Pour ceux qui ont le cœur pur ». C'est du vécu. C'est quelqu'un, et si vous lisez la suite de ce chapitre, vous allez remarquer qu'il le reprend un petit peu plus loin et il dit réellement qu'il est pur avec Dieu. Mais suite à cette phrase, alors qu'on sait qu'il vit ces moments de pureté, il y a un changement de ton. Et ce changement de ton, nous le retrouvons au verset 2, où il est dit « Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Un homme qui, tout en ayant un cœur pur, s'est retrouvé avec un cœur découragé, un cœur débité, un cœur lassé, je dirais même déprimé. Parce qu'il disait ceci, il dit, mon pied allait fléchir. Pourquoi il allait fléchir? Il dit, j'étais sur le point de glisser. Mais pourquoi il était sur le point de glisser? Il nous l'explique au verset 3, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il y a certains chrétiens qui ont envie les gens de ce monde. Il y a certains chrétiens qui, quelque part à la limite, dans leur vie chrétienne, ils se sentent tellement mal qu'ils se disent, ils ont de la chance dehors. Et peut-être c'est ce que tu es en train de vivre ce matin. Ce sentiment que finalement, dehors, il n'y a rien de mal. Dehors, ils ne luttent pas, ils ne sont pas dans les combats, alors que toi, tu es dans la galère. Alors que toi, tu es dans les luttes, que tu es dans les combats, dans les moments difficiles. Asaph, vous savez, on pourrait le dire, Asaph, on pourrait penser que rien ne pouvait le toucher, il était peut-être même immunisé par la crise, parce qu'il s'entretenait par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. On pourrait dire, mais c'est quand même un homme de Dieu. Vous imaginez, il écrit des psaumes. C'est quand même pas rien d'écrire des psaumes. Il les chante et peut-être même c'est un prédicateur. Et pourtant, en tant que prédicateur, en tant que chantre, il passe un moment de crise spirituelle. Et je pense, frères et sœurs, que personne n'est immunisé par ça. Personne ne peut, je dirais, dire de sa vie chrétienne, moi, j'ai jamais eu d'épreuve, j'ai jamais eu de crise de foi. Je vais vous dire, celui qui me dit ça, je me fais du souci pour sa vie chrétienne. Asaph témoigne, c'est quelqu'un d'extrêmement honnête là. Il dit qu'il est prêt à basculer. Il le dit de manière très simple. Il dit qu'il est prêt à fléchir, prêt même à glisser. Attention, je précise, il dit qu'il est prêt à fléchir, mais il ne fléchit pas. Je donne ce détail qui est très important. Il n'a pas glissé, Asaph. Il n'est pas tombé dans le péché, il n'a pas glissé dans les travers de ce monde. Il dit tout simplement qu'il porte envie à ceux qui sont à l'extérieur, mais il n'a pas glissé. Il y avait juste cette pensée, mais dans son cœur, il était pur. Et peut-être que plusieurs ici ont vécu cette douloureuse expérience. Ou jusqu'à aujourd'hui, alors que tu es célibataire, tu t'es promis que tu resterais pur jusqu'au mariage, mais tu t'es promis aussi que tu te marierais avec un chrétien, une chrétienne. Et voilà que les années passent. Et tu te retrouves aujourd'hui bousculé, perturbé, parce que tu vas à un mariage d'un tel, à un mariage d'un autre, t'es invité d'un côté, de l'autre, à vivre ce mariage de joie, de paix. Ce sont des meilleurs copains de chrétiens, ce sont peut-être des amis chrétiens qui t'ont invité, et tu partages ce moment de joie, alors que toi, t'es dans la tristesse de ne pas avoir encore un compagnon, une compagne. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours crié haut et fort que tu te marierais avec une chrétienne. Et voilà que les années passent et tu es en train d'être perturbé dans ton esprit. Et tu regardes à l'extérieur et dis, mais pourquoi pas? Tu sors de ce champ dans lequel tu t'es barricadé, le champ spirituel, biblique, et là tu te dis, pourquoi pas voir à l'extérieur? Et alors que tu as cette pensée d'aller voir peut-être dehors, en dehors de l'église, tu te dis, mais pourquoi j'ai cette pensée? À aucun moment tu aurais pensé un instant que tu pourrais envisager de te marier avec quelqu'un de non-chrétien. Peut-être que tu te retrouves en tant que chef d'entreprise à joindre difficilement les deux bouts. Et quand tu parles avec des collègues qui ont aussi une entreprise mais qui ne sont pas chrétiens, ils t'expliquent comment ils font en faisant des dessous de table, en déclarant qu'une partie des chantiers, en payant qu'une partie des impôts, en essayant de dissimuler par-ci, par-là, faisant du travail au black. Et toi, tu te dis, tu es en train de te dire, mais pourquoi pas faire ça? Juste pendant la période où je suis en crise, juste pendant la période où c'est difficile dans mon entreprise, et puis après, je reviendrai comme avant, je remettrai mes choses en ordre, je demanderai pardon à Dieu. Et tu as cette pensée dans ton cœur, alors que jusqu'à maintenant, tu as crié haut et fort que ton entreprise serait gérée par Dieu, que les finances seraient dirigées par ton maître. Tu as toujours dit haut et fort que finalement les clients que tu aurais auraient été choisis par Dieu et que tu prierais pour cela afin que ton entreprise soit entre les mains du maître, et tu penses déjà au travail noir. Tout cela parce que tu passes un moment de crise, tu passes un moment de trouble. Et au grand jamais, dans ton esprit, tu aurais pensé cela auparavant. Et là, aujourd'hui, tu y penses et ça te trouble parce que tu dis, mais c'est pas possible. Je n'avais jamais envisagé à un moment donné, juste d'y penser, de faire du travail noir. Peut-être que tu passes un moment difficile avec ton couple. Alors que tu passes ce moment difficile, que c'est tendu dans le foyer, il y a cette phrase qui retentit et c'est vraiment ce que tu es en train de vivre. Mon pied allait fléchir sur le point de glisser. Alors que ça allait difficile et que c'était difficile dans ta maison et dans ton foyer, tu as eu une dispute et tu es parti au boulot. Et en partant au boulot, tu as ton collègue de travail en face qui te fait du regard, qui insiste sur le regard, qui te fait du pied. Et là, alors que jusqu'à maintenant, tu as toujours fermé, tu as toujours mis des barrières, tu t'es toujours protégé, là, tu as insisté sur le regard. Et là, tu as eu comme toutes sortes de pensées qui sont venues, tu as joué avec elles, tu t'es dit « pourquoi pas ?» De toute manière, ça ne va pas dans mon foyer. Et alors que tu es en train de faire ça, que tu insistes sur le regard, dans ton cœur, tu te sens mal. Tu te dis, mais, et tu te ressaisis, tu es effrayé d'avoir de telles pensées. Et tu es comme Asaph. Mon pied allait fléchir sur le point de glisser. Mais tu n'as pas glissé. Asaph n'a pas glissé. Asaph s'est retrouvé dans cette période de turbulence, dans cette crise de foi. Comme toi aujourd'hui, tu es en train d'être pris par cette turbulence dans ta vie. Asaph nous explique les choses ainsi. Moi qui suis pur, je suis parfois dans les luttes et les combats, je suis dans la galère, alors que je vois le bonheur des méchants et ça me porte envie. Et toi, tu te retrouves là en disant, quand même, dans ce monde, il y a des choses bien. Et ça te porte envie. Des moments, tu te retrouves comme... Tu as l'impression que ta vie chrétienne est un piège. Tu as l'impression que ta vie chrétienne, c'est quelque chose... Tu sais très bien que tu es dans la vérité, tu es dans le vrai, que Dieu est bon, tout cela, c'est extraordinaire. Mais il y a comme quelque chose qui te bloque et tu donnes envie de regarder à l'extérieur et pourquoi pas aller vers l'interdit. Mon pied était sur le point de glisser. À deux doigts de perdre pied... Puisqu'au verset 4 et 5, regardez avec moi, il est dit « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste du monde. » Asaph nous fait une description du méchant en disant que tout va bien. Rien ne les tourmente. Une autre version dit « Ils ne souffrent pas. Ouais, » aucune part aux souffrances, toujours heureux, le vrai bonheur, bref, c'est le paradis pour eux. C'est ce qu'il est en train de dire là. Alors qu'il est très mal dans son cœur, il y a des mots qui ne trompent pas, je dirais, dans un temps de crise. Il est quasi inévitable de perdre son objectivité. Quand on est en temps de crise, on n'est pas objectif. Quand on est en temps de crise, on voit les choses toujours meilleures ailleurs. On a une perception de ce qui nous entoure qui est complètement faussée. Et l'une des marques du déséquilibre, c'est l'utilisation d'adverbes. Rien, tout, aucun, toujours. Ce sont des mots absolus. C'est toujours à moi que ça arrive. Rien ne me réussit. Tout va mal. Alors que jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a posé ta main dans certaines circonstances où tout allait bien, mais on s'en occupe plus, on n'y pense pas à ce moment-là. On englobe tout, même tout ce qui est bien, mais tout va mal. Tout ce que Dieu a fait dans le passé, non, c'est pas bien, de toute façon, tout va mal. On est absolu dans tout ça. On annule même la bénédiction de Dieu quand on passe un temps de crise. Ces mots sont exagérés, ils sont grossis. Et ce que je voudrais dire, si vous me le permettez, attention aux conséquences des mots extrêmes, parce que c'est destructeur pour nous. Un mot peut nous détruire, en tout cas, vient piétiner la foi qui est là dans notre cœur, vient piétiner quelque chose qui est là au plus profond de notre vie. Et parfois les gens se font du mal en prononçant des mots extrêmes. Quelque part, à la limite... On tombe, il y a un côté de victimisation, d'autoflagellation. On veut se faire du mal, on veut s'abîmer, on veut s'esquinter. Peut-être pour essayer d'attirer le regard, mais on ne sait pas trop de qui, peut-être de Dieu en espérant. Parce qu'on passe une crise de foi. Et parce qu'on se retrouve dans une situation un peu compliquée dans notre cœur. Alors il regrette une chose. Et ce verset, dans tout ce chapitre 73, le verset 13 m'interpelle plus que les autres. Il me fait mal, ce verset 13. Il me fait mal parce qu'il regrette d'être pur. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est ce qu'il dit, c'est dur. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, franchement, il y a vraiment une souffrance. Il avait cru que son cœur pur, et il pensait que son cœur pur lui donnerait des droits. Seigneur, j'ai un cœur pur, alors j'ai le droit d'avoir la bénédiction. J'ai un cœur pur, tu vois, Seigneur Jésus, je suis droit avec toi, je marche dans la foi avec toi, je lis la Bible tous les jours, je te prie, je vais à l'église, je donne ma dîme, je prie pour les malades, je suis là en intercession. Seigneur, tu vois tout ce que je fais pour toi. Alors, maintenant, moi, j'ai un cœur pur, j'ai toujours fait en sorte à ne pas avoir un regard de travers et avoir un cœur protégé. Alors, Seigneur, puisque j'ai tout ça, j'ai le droit quand même à la bénédiction, non ? Et ça, c'est ce qu'il est en train de dire, parce que vu la situation dans laquelle il vit, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Pourquoi en vain ? Dieu est en train de lui montrer que s'il n'a pas un cœur pur, il est juste perdu. Tu ne me rends pas service, et Dieu est en train de lui parler à Asaf. Asaf, en ayant un cœur pur, tu ne me rends pas service. Tu te rends service, toi. Ce n'est pas moi qui ai perdu, c'est toi. Un cœur pur ne te donne pas accès à des bénédictions terrestres, mais accès au ciel. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, Asaf. Ce n'est pas parce que dans ce monde, il y a certains qui ont pseudo-bonheur, joie. La différence, c'est qu'ils sont perdus, toi, tu es sauvé. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre, frères et sœurs, parce que j'ai tellement vu de frères et sœurs quitter l'Église, quitter Dieu à cause de ça. De circonstances difficiles, de crises de foi, d'épreuves, où ils ont dit, puisque c'est comme ça, je quitte le Seigneur. Pourquoi ? Dans quel but t'es venu ? Pour être sauvé ou pour que toute ta vie, eh ben, elle soit clean ? Il y a des gens qui remettent en question leur salut à cause de ça. Et à un moment donné, presque, c'était presque ça chez Asaph, cette remise en question de salut. C'est donc en vain que j'ai perdu, que j'ai purifié, pardon, mon cœur. On ne rend pas service à Dieu en ayant un cœur pur. On se sauve nous-mêmes. Un jour, alors que j'étais à l'école biblique, je me rappelle un frère qui passait des moments difficiles et je suis allé dans sa chambre, on a échangé ensemble, on priait, puis il me dit, tu vois, tu t'imagines, Didier, je me demande si vraiment Dieu existe. Il était en pleine crise de foi, il était en train de se poser la question à savoir si Dieu existe. C'est-à-dire que dans cette période de crise de foi, on peut se retrouver dans de telles turbulences où on a l'impression que finalement, ça ne sert à rien de marcher avec Dieu. Mais il y a une sortie de crise. Parce que quand Asaph, il a vu cette situation, quand Asaph, il a vu qu'il était perturbé de tous les côtés, que son cœur était remis en question, il dit au verset 16, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. » Et j'aime bien cette phrase, « Quand j'ai réfléchi là-dessus. » Ça me fait penser à ce fils prodigue dans Luc 15, 17, étant rentré en lui-même, il dit. Je crois qu'à ce moment-là, frères et sœurs, alors qu'il y a toutes sortes de pensées qui viennent et qui veulent s'arrêter dans ton esprit, alors que tu es dans la turbulence, dans le trouble, alors que tu es là peut-être à penser à faire du travail noir pour te sortir l'entreprise de cette mauvaise passe, alors que tu as peut-être un regard qui était insistant sur une copine de travail ou un copain de travail, alors qu'il y a toutes sortes de pensées qui sont là, qui n'auraient jamais dû s'arrêter. Et tu le sais, tu te dis, c'est complètement fou, alors que tu te retrouves dans cette situation. Dieu te demande de faire comme lui, étant rentré en lui-même. Et à ce moment-là, il faut rentrer en nous-mêmes. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, c'est une démarche personnelle. Ce n'est pas Dieu qui va venir, c'est toi qui vas aller vers Dieu. C'est toi qui t'es écarté, c'est toi qui dois revenir. C'est toi qui dois te reconnecter avec le Seigneur dans tes pensées, dans ton cœur. Il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir peut-être faire le point avec Dieu. Et ça, c'est pour tout le monde pareil, il n'y a pas d'exception. Frères et sœurs, à un moment donné de ta vie, tu vas te retrouver dans un carrefour, dans un croisement où tu seras obligé de te remettre en question. C'est juste inévitable. C'est juste même indispensable. Un de nos grands problèmes, c'est le fait que nous sommes tellement absorbés par les pensées que nous n'avons plus la hauteur, la distance, le recul nécessaire pour être objectif. Il faut que tu rentres en toi-même, que tu fasses le point avec Dieu, que tu cherches la face de Dieu. Rentrer en soi-même, c'est cesser de prendre pour vrai ce que j'ai cru jusqu'à présent. Balayer, ces choses qui étaient véritablement des mensonges. Et c'est pour ça qu'il dit dans la suite de ce verset, il dit « La difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. » Il a réfléchi, puis il s'est aperçu qu'il fallait qu'il rentre dans le sanctuaire de Dieu. Et il précise « La difficulté fut grande à mes yeux. » C'est une véritable épreuve. De percer la présence de Dieu tellement qu'il était broyé dans son esprit, tellement que son cerveau c'était un lave-linge avec cette crise qui faisait voir le monde meilleur que la vie chrétienne. Et il était tellement remué dans son esprit qu'il dit que la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré. C'est un combat spirituel pour un rendez-vous divin. Et c'est pour ça que dans le psaume 34, verset 4, il dit « J'ai cherché l'Éternel » et il m'a répondu « Amen ». J'ai cherché l'Éternel. Dieu t'attend, mon frère, ma sœur. Il t'attend à discuter avec lui, à partager, à échanger avec lui. Il t'attend dans ce lieu secret, à pénétrer ce temps, à rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Le Seigneur t'attend afin que tu puisses converser avec lui parce que finalement, le sort des méchants, c'est son problème, c'est pas le tien. Le sort des méchants, c'est le problème de Dieu et pas le nôtre. Et c'est pour ça que dans le verset 22, toujours de ce chapitre, il dit « J'étais stupide et sans intelligence. » Quelle lucidité ! À ce moment-là, ça n'avait pas été le cas. Il prend conscience de son erreur. L'erreur, c'est de se comparer au monde. On ne peut pas se comparer au monde. On ne peut pas se comparer par rapport à ta vie, à ton foyer, à ta famille, à ce que tu es, à ton travail, à tout ça. Tu ne peux pas comparer avec les gens de ce monde. Parce que dans ce monde, tu auras forcément des gens qui gagneront plus que toi, qui auront une meilleure situation que toi, qui se retrouveront peut-être avec un foyer peut-être sain comme cela, et toi, tu as subi le divorce alors que tu es chrétien. Mais tu ne peux pas comparer parce qu'au-delà de tout ça, il y a le salut, il y a la vie éternelle. Et ça ne se compare pas. Asaph, il a fait une erreur, c'est de se comparer avec le monde par rapport à certaines situations qui l'entouraient parce que lui, il était mal. Et peut-être que toi, tu te retrouves aussi dans cette même situation. Mais Dieu te demande de cesser de regarder, d'avoir les yeux fixés sur le rémunérateur. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. » Il se réfugie dans le Seigneur. En fait, quelque part, il rentre dans cette grotte, il se cale bien dans la présence de Dieu et là, il ne veut plus bouger. Finalement, il met Christ au centre de sa vie. Après avoir mis ses pensées au centre de sa vie, qu'il a complètement bousculé, remué, complètement assommé, là, il remet Christ au centre de sa vie. Il ne comprend pas tout, mais il obéit. Mon frère, ma sœur, je veux te dire une chose qui ne va pas du tout te plaire. Le Seigneur veut tout simplement te dire, tu ne vas pas tout comprendre de ta vie chrétienne, mais il faut obéir. Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Il y a des moments, on aimerait savoir. C'est pour ça que ce monde sont friands de voyants, d'astrologues, pour connaître leur avenir, pour savoir où ils doivent aller. Et nous, en tant que chrétiens, on est friands de savoir où Dieu veut nous amener. Mais il y aura des moments où Dieu veut dire, fais-moi confiance, t'inquiète pas et avance. On ne va pas tout comprendre de Dieu, mais avance. Aujourd'hui, tu te retrouves peut-être chamboulé par rapport à ce qui se passe autour de toi, mais avance. Tout simplement, abandonne-toi entre ses mains. Ce n'est pas ton problème, c'est celui du maître, du divin. Tu as donné ta vie. Alors maintenant, avance avec ce qu'il t'a donné. Tu ne vas pas tout comprendre, tu vas peut-être lui poser des questions, tu vas peut-être crier à Dieu. S'il ne répond pas, tu dis « Ok Seigneur, je continue ». Il y a des chrétiens qui se sont fait du mal comme ça, en jeûnant, en priant, en ne recevant aucune parole de Dieu. Ils sont rentrés dans l'amertume. Dans l'amertume contre l'Église. Dans l'amertume contre les serviteurs de Dieu, parce que les serviteurs de Dieu auraient dû avoir une parole pour eux. De l'amertume contre Dieu, finalement, à un moment donné. Ils se sont retrouvés amers tout en étant dans l'Église. Parce qu'ils auraient voulu avoir une parole du Seigneur. Et là, ce passage nous montre que finalement, lui, il s'est mis entre les mains du Maître. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Et lui, il fait confiance totalement, entièrement au Maître et au Seigneur de sa vie. Oui, tu vas passer un temps de crise. Et peut-être que tu es en train de passer ce temps aujourd'hui. Peut-être que tu as eu des pensées toutes complètement folles dans ta vie. Tu as eu toutes sortes de choses qui se sont passées là que tu n'aurais jamais dû avoir, jamais dû envisager, penser, mais ça a été des pensées. Et le diable a voulu te tourmenter, a voulu te remuer par rapport à ça, mais tu as coupé natte. La parole de Dieu nous dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. On va terminer, et s'il y a les musiciens, je demanderai de venir prendre place. Je vais terminer avec cette pensée de Martin Luther King, cette pensée qui est forte en nous-mêmes et qui est vraiment remplie de vérité. Il dit que la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est en son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. J'aime bien cette phrase, je la répète. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. Parce que face au défi, face à la controverse, face à des moments difficiles, face aux luttes, aux combats, face à des pensées qui passent là, il sera capable d'avoir les yeux fixés sur le maître. On dit souvent qu'on ne peut pas empêcher un oiseau de passer sur la tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid. Et là, toutes ces pensées sont passées dans ton esprit. Tu t'es même trouvé, comment dirais-je, souillé la fois où tu as eu le regard insistant sur cette personne qui te regardait, qui te cherchait du regard. C'était quelque chose qui était impensable. Et même dans ton cœur, rien qu'en faisant ça, tu as eu le sentiment d'avoir commis l'adultère. Tu avais juste le sentiment d'avoir trahi ta femme ou ton mari. Tu te retrouvais dans cette turbulence. Et tu t'es dit, c'est un véritable piège. Cette crise de foi, Seigneur, je veux te le remettre. Je veux rentrer dans le sanctuaire de Dieu jusqu'à ce que je puisse pénétrer ta présence et que tu viennes intervenir dans ma vie. Je crois que la question est tout simplement que tu puisses te tourner vers Dieu. Que vraiment ce matin, tu puisses t'approcher de lui. Alléluia. Ça, on va se lever à notre place. J'aimerais que nous puissions nous retrouver là devant Dieu. Que nous puissions incliner nos fronts. Que nous puissions vraiment nous retrouver devant le Maître ce matin. J'ai trop vu de chrétiens remettre en question leur marche avec Dieu. Après cette période de crise de foi. Alors qu'ils n'avaient pas d'épreuves dans leur vie, mais ils ont été minés dans leur cœur. Ils ont été comme secoués au plus profond de leur vie. Ils se sont retrouvés avec toutes sortes de tentations, toutes sortes de pensées. Alors que dans leur cœur, ils étaient droits, alors que dans leur cœur, ils étaient toujours honnêtes, dans leur cœur, il y avait toujours cette vérité. Mais en eux, ils ont été comme secoués, remués. Puissons élever nos voix quelques instants. Puissons demander au Seigneur d'agir au milieu de nous. Alléluia. Peut-être des frères et sœurs qui se retrouvent là, devant des moments difficiles, devant des luttes, devant des combats. Tu te retrouves avec ces pensées. Tu te retrouves à avoir peut-être joué avec cela, peut-être laissé tes pensées, peut-être se promener. Tu as même pensé à un moment donné à ton entreprise, tu t'es dit, allez, je vais pas déclarer tout ce que je fais, je vais peut-être pas tout déclarer. Je vais laisser ces choses en partie, juste un temps. Tu t'es dit même une chose, c'est que, allez, je vais faire 2-3 chantiers au black. Je vais essayer de m'en sortir comme ça un temps. Dieu connaît toutes choses. Il sait ce que je suis en train de vivre. J'ai une famille, j'ai un foyer. J'ai des responsabilités. Mais dans ton cœur, tu sens qu'il y a comme un témoignage qui est néfaste, qui est ténébreux. Tu sens que ça contredit, ça annule tout ce que tu as pu confesser jusqu'à aujourd'hui. Et tu t'es dit non, c'est pas possible ça. C'est juste quelque chose que je ne peux pas concevoir alors que j'y ai pensé. Comment j'ai pu en arriver à penser à ça? Alors que j'ai toujours été droit, honnête, que j'ai toujours revendiqué le fait de pouvoir être clair, clean. Je l'ai dit, j'ai condamné ceux qui le faisaient. Et moi j'y pense. Et là le Seigneur ce matin t'invite tout simplement à rentrer, à pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Asaph a dit, mais la difficulté fut grande à mes yeux. C'est vrai, c'est comme un chantier qui s'ouvrait devant moi, comme une montagne. Mais nous voulons dire comme Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Seigneur veut toucher ton cœur ce matin. Seigneur veut toucher ta vie ce matin. Tu es en grande lutte spirituelle. Il y a un grand conflit dans ton cœur, mais Dieu ne te juge pas. Dieu n'est pas là à te juger, Dieu n'est pas là à te condamner. Alors que toutefois ton pied allait fléchir sur le point de glisser, tu n'as pas glissé, tu n'as pas fléchi. Dieu t'aime, tu ne peux pas savoir comment il t'aime. Alors le Seigneur est en train de poser sa main sur toi maintenant. Il est en train d'étendre ses mains. J'inviterai les frères et sœurs qui ont été désignés pour la Sainte-Cène à s'approcher au devant. Alors qu'ils vont passer, ils vont distribuer le pain et le vin pour ceux qui sont engagés par les eaux du baptême, et j'inviterai aussi ceux qui vont s'engager par les eaux du baptême cet après-midi qui puissent se lever à leur place dans ce lieu. Alors qu'on va prendre le pain, le vin, le Seigneur va passer comme pour te restaurer ce matin. Va passer comme passer cette pommade sur ton cœur. Il va briser cette crise qui est là, qui a pris place. Il va étendre ses mains de manière extraordinaire parce que tu seras rentré en toi-même. Alors que tu vas dire comme Asaph, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Et tu vas faire cette confession maintenant sur ta vie. Les frères et sœurs vont passer maintenant distribuer. Restons dans le recueillement et on va se laisser conduire par un chant que Pierre va nous chanter et jouer.
C'est un lieu où la bonté règne jamais. Dans ce lieu, la grâce coule à flot sur nous. Tout l'amour que j'ai cherché est répandu pour me sauver. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. L'amour coule, le sang lave mon péché. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Jésus, c'est un lieu. C'est un lieu où le péché est sans pouvoir. Là mon cœur trouve la paix. Là mon cœur trouve la paix et le pardon, le pardon. Et tout l'amour que je cherchais, tout que je cherchais, répandu pour me sauver, répandu pour me sauver. À la croix, je m'abandonne.
Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur.
Je veux t'adorer.
T'approcher du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Approcher de celui qui est, qui était et qui sera. Alléluia. Seigneur, merci pour les Asaph, Seigneur, ce matin. Tu les touches au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, à la croix, nous approchons de toi. Nous rentrons dans le sanctuaire de Dieu, Seigneur. Nous pénétrons ta présence ce matin. Amen. Alléluia.
Lave mon péché. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Là est mon espoir. Oui, là sur ce saint, je t'adore.
t'adorons, Seigneur Jésus, ce matin. Nous sommes là devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, parce que tu touches nos cœurs comme tu as touché Asaph. Seigneur, tu transformes, tu bouscules ce matin. Alléluia. Seigneur, Seigneur, pour pénétrer dans le sanctuaire de Dieu, pour saisir la victoire du Seigneur, la victoire de notre roi. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix quelques instants ensemble. Louons le Seigneur. Amen. Louons notre Dieu ce matin. Nous venons à la croix du Seigneur. Nous venons à la croix de notre Dieu.